Qu'auriez-vous répondu ? Qu'auriez-vous répondu ? Il y a 2 semaines, lors d'une rencontre avec les catéchumènes sur le thème de la liberté, chaque jeune a reçu une affirmation qu'il devait placer selon ses convictions dans vrai ou dans faux. Excusez-moi. L'une des affirmations disait ceci : être libre, c'est être capable de pardonner à celles et ceux qui m'ont blessé. Une jeune reçoit cette affirmation et le place dans faux, en disant « Quand je suis blessé, quand je me sens trahi, je suis incapable de pardonner. » Beaucoup de franchise, beaucoup de franchise. Et un jeune, parce que la discussion était ouverte, de lui dire « Mais quand tu réussis à pardonner, tu te sens quand même mieux et plus libre. » Pardonner n'est pas facile. Parfois, nous croyons que nous avons réussi à pardonner et nous réalisons qu'il y a encore quelque chose qui reste de la blessure. Pardonner, comme ce jeune le disait aussi, pardonner ce n'est pas oublier, mais c'est tout un cheminement qui nous permet de penser à autrui sans rancœur, sans rancune, tout en soulignant que cela ne signifie pas qu'on va se sauter dans les bras, ni même, peut-être même pas se rapprocher, mais de penser à l'autre avec un autre regard que celui de la rancœur et de la rancune. À la fin de notre parcours sur ce thème de la liberté, nous avons demandé aux jeunes de créer une œuvre dont le titre porte « De la prison à la liberté ». Et j'aimerais vous montrer celle-ci que j'aime particulièrement. Donc elle a été réalisée par des adolescents de 15-16 ans. Donc vous voyez bien, c'est sûr ici la prison, et il fait noir. Et puis on voit des yeux sans visage. C'est comme, vous savez, quand on est prisonnier de ses peurs, prisonnier, ils ont mis des dollars quand on est dépendant de l'argent, par exemple, prisonnier de ses soucis, prisonnier de la tristesse parfois. C'est comme si on voit sa vie défiler, mais sans être véritablement vivant, sans être véritablement présent. C'est pourquoi il n'y a pas de visage visible. Nous allons cheminer et découvrir en fait comment ils ont exprimé aussi le thème de la liberté. Nous avons entendu 2 récits, celui du livre de l'Ecclésiaste et celui de l'Évangile de Marc. Il y a un temps pour construire et un temps pour détruire. Il y a un temps pour et il y a un temps pour. Cela pourrait nous donner l'impression que l'Ecclésiaste parle d'un déroulement des événements inéluctables. Vous savez, après le soleil, la pluie, après la pluie, le beau temps, après le beau temps, la pluie. Et pourtant, il y a des indices, nous l'avons entendu, qui nous permettent de porter un autre regard. Dieu a mis dans le cœur des humains la pensée de l'éternité. Ce petit mot « éternité » en hébreu, dans l'Ecclésiaste, ne signifie pas une quantité de temps, mais une qualité de temps. Vous savez, le temps qui a du sens, le temps qui a du goût, le temps qui a de la saveur, le temps qui a de la couleur. Et vous avez peut-être déjà entendu des récits de personnes qui ont séjourné en prison. Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Quand vous êtes privé de liberté, vous vous posez beaucoup plus naturellement les questions essentielles de l'existence. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie ? Qu'est-ce qui me fait véritablement vivre ? Pour nous, j'ai envie de dire, n'attendons pas. N'attendons pas que les circonstances de la vie viennent nous chahuter, nous chambouler, nous blesser par des événements douloureux pour être amenés à nous poser la question « Mais finalement, qu'est-ce qui est essentiel dans mon existence ? Qu'est-ce qui me fait vraiment vivre. D'autant plus que dans la foi, je le crois, nous avons un puissant moyen, celui de la reconnaissance, qui est aussi évoqué par l'Ecclésiaste. Trouver des raisons de dire merci pour son parcours et son histoire de vie, même si ce parcours n'a pas été parfait et a pu passer par des moments douloureux. Nous passons tous par là, une fois ou l'autre, nous le savons bien. Mais quand je me rappelle mon enfance personnellement, quand je rentrais de l'école, je faisais mes devoirs et la chose que j'attendais, c'était d'aller jouer dehors. Dans un quartier, avec les copains, on faisait des cabanes, on s'amusait. Et quand je repense à ces moments-là, j'ai envie de dire « Merci Seigneur ». Quand je repense à cet instituteur qui a su me témoigner sa confiance, alors que j'étais de loin pas un élève studieux, mais que sa confiance a suscité un déclic en moi, j'ai envie de dire « Merci Seigneur ». Pourquoi ? Parce que quand l'on trouve des raisons de dire merci, nous prenons d'autant plus conscience, avec intensité, que nous avons été accompagnés, que nous n'avons pas été abandonnés pendant tout notre parcours de vie, quel qu'il soit. Et plus nous réveillons ces raisons d'être reconnaissants, plus aujourd'hui, nous trouverons aussi des raisons d'être reconnaissants. Plus aujourd'hui nous découvrirons les signes de ce Dieu qui nous accompagne, nous ne sommes pas abandonnés. Et c'est ce que fait sans cesse le peuple d'Israël. Il se rappelle qu'il a été libéré de l'esclavage d'Égypte et en conséquence nourrit la confiance qu'aujourd'hui, même s'il ne discerne pas encore les signes de cette libération, cette confiance que Dieu viendra à nouveau les libérer. Alors je vous pose la question, ce matin, quelles peuvent être les raisons pour vous, avec votre histoire de vie, de dire merci à Dieu pour certains événements, pour certaines périodes, pour certaines rencontres? Jésus accueille les enfants. Incroyable, incroyable. Il a fait là quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire selon les règles et les traditions de l'époque. À l'époque de Jésus, vous aviez les catégories de gens. Les enfants ne devaient pas avoir de contact avec l'univers des adultes en dehors de leurs proches et de leur famille. D'autant plus avec un maître religieux comme Jésus. Et pourtant, Jésus insiste pour pouvoir les accueillir. Il se trouve là face à un groupe d'anonymes d'enfants. Et qu'est-ce qu'il fait ? Incroyable ! Le récit précise. Il les porte chacun d'eux. Il les bénit chacun d'eux. Ce que tu as, beaucoup peuvent l'avoir. Ce que tu es, toi seul peux l'être. C'est pourquoi tu es un cadeau de Dieu. Vous est-il parfois senti, pendant votre parcours de vie, senti différent, en marge, pas compris par les autres? Avez-vous parfois hésité à vous exprimer avec votre singularité? Par peur de ne pas être compris, de ne pas être accueilli par les autres et de se sentir en marge, ou de ne pas le faire pour faire partie du groupe, de la norme, comme les autres. Dieu accueille et bénit. Non, Dieu t'accueille et te bénit. Ce que tu as, beaucoup peuvent l'avoir. Ce que tu es, toi seul peux l'être. C'est pourquoi tu es un cadeau de Dieu. La grâce est de nous accorder la liberté d'être nous-mêmes. Mais quel cadeau! Quel cadeau! Alors j'aimerais terminer avec le deuxième volet, celui de la liberté. Liberté. Il y a de la couleur, il y a un beau sourire, il y a des bras ouverts. Il y a quelque chose qui rayonne, la vie et la joie. Mais il y a aussi le mouvement avec ses papillons. Le mouvement comme une vie certainement qui a du sens, qui a du goût, qui a de la saveur. Si le Christ est venu parmi nous et c'est unique à notre tradition, ce Dieu qui nous aime tant qu'il se fait l'un des nôtres, si le Christ est mort et ressuscité pour nous, c'est pour nous faire aussi découvrir que nous sommes bien mieux reliés que ce que nous imaginons, même s'il nous arrive souvent de l'oublier. Mais notre liberté, la liberté des enfants de Dieu, c'est quoi? Ni accusé, ni condamné, mais sans cesse invité à nous relier encore, à nouveau et toujours à celui qui n'a cessé de nous accompagner. Hier, aujourd'hui et demain. Amen.